le temps électoral sur Radio Prévert. Vous savez que nous y consacrons beaucoup d'intérêt puisque les habitantes et les habitants du territoire ont vocation à saisir les enjeux que recouvrent ces élections municipales 2026. Et aujourd'hui, nous sommes au Lude en compagnie d'un candidat qui se présente pour la première fois aux urnes. Bonjour René de Nicolaï.
Bonjour Jocelyn Abbé, merci de votre invitation.
Je vous en prie. C'est un plaisir de vous recevoir dans notre studio de Pont-Vallin aujourd'hui pour une campagne qui se termine. Et quel regard portez-vous sur cette expression démocratique que j'imagine vous côtoyez pour la première fois en tant que candidat?
Tout à fait. Alors la campagne dure jusqu'à vendredi 23h59 et on aura des choses à dire jusqu'à vendredi 23h59. Mais vous avez raison, c'est déjà l'occasion d'un petit regard rétrospectif. En entrant dans cette campagne, j'avais discuté avec un ami qui m'avait demandé « Mais au fond, que tu gagnes ou que tu perdes, que vous gagnez ou que vous perdiez, qu'est-ce que tu aimerais pour la fin de la campagne ?» Et je lui avais dit deux choses. D'abord, j'aimerais que l'ambiance au sein de l'équipe reste ce qu'elle est depuis le départ. Et si des colistiers nous écoutent, je tiens à les remercier pour l'ambiance fabuleuse qui a été celle qui nous anime depuis le départ. Et puis la deuxième chose que je lui avais répondu à cet ami, c'est que je veux impérativement ne pas m'être trahi, n'avoir raconté aucun bobard, aucun crack, et être resté fidèle à moi-même et capable de me regarder dans le miroir. Et je n'ai pas à me décerner de satisfecit, mais je crois que ces deux objectifs sont atteints, et donc ça aura été pour nous, quoi qu'il en soit, une belle campagne.
Écouter et agir pour le renouveau, le nom de votre liste. On a envie de vous écouter, mais... qui êtes-vous précisément, René de Nicolaï? On a envie de savoir parce que quand je justifie l'organisation de ces temps d'expression sur la radio, je dis toujours à ceux qui acceptent, et il y a d'autres qui voudraient bien accepter mais qui sont un peu timorés, intimidés par toute cette forêt de micros, je leur dis que vous vous adressez non seulement aux habitantes et habitants des communes où vous vous présentez, mais également à tout un territoire. Parce qu'au-delà du local, il y a... le départemental, le régional, on a envie de savoir à qui on confie les clés, à qui on confie
bien sûr
notre destinée, si j'ose dire.
Je comprends d'autant plus la question parce que il se trouve d'abord que c'est un scrutin de liste, donc on élit une équipe.
Exactement.
Et puis on élit la tête de liste qui est amenée à devenir maire si la liste est élue. Il y a un programme, évidemment, et je crois qu'on en parlera.
Tout à fait.
Mais... sur 6 ans, vous imaginez bien qu'il y a 1000 imprévus qui vont survenir. Chaque jour, il y aura des imprévus. Et l'essentiel, je crois, dans l'identité d'une équipe, ce sont les personnes, les compétences, les qualités humaines aussi, qui la constituent, parce que les électeurs doivent pouvoir faire confiance à des gens qui réagiront bien, en espérant, je veux dire, qu'ils réagissent bien, en les choisissant pour qu'ils réagissent bien aux imprévus qui ne manqueront pas de survenir. Donc, quand on a constitué notre équipe, j'avais dit aux colistiers, aux gens que je rencontrais, qu'il y avait deux critères qui pour moi étaient fondamentaux. Il y a d'abord la compétence, évidemment, et puis il y a les qualités humaines, à commencer par le fait d'avoir le moins d'ego possible. Nous sommes tous humains, nous avons tous notre ego, mais on sait tous que moins il prend de place, mieux c'est. Alors, je viens de dire qu'il ne faut pas parler... il ne faut pas avoir un ego démesuré, mais vous me posez une question sur moi, donc je vais bien être obligé d'y répondre.
Je prends la responsabilité, c'est moi qui vous ai demandé.
Donc René Nicolaï, j'ai 34 ans, j'ai la joie d'être marié depuis 3 mois. Merci. Et je viens d'une famille qui a la fibre du service public, plus que de l'action politique, du service public. Dans son ADN, c'est évidemment une image, mais je pense que c'est une image qui convient. J'ai eu la chance d'avoir un père magistrat qui m'a inculqué ça aussi, et puis des modèles familiaux, le plus prégnant étant une personnalité dont certains dans le territoire et au Lude se souviennent, qui était mon grand-oncle François Nicolaï, qui s'est tué dans un accident de voiture au début des années 60, après... alors avoir rempli un certain nombre de fonctions, mais surtout après avoir laissé une marque, une empreinte de dynamisme, de charisme, je crois, et de, d'empathie, comme on dit aujourd'hui, qui trottait dans ma mémoire, je ne l'ai jamais connu, mais c'est sûr que ça compte. Alors, pourquoi est-ce que je me suis engagé? Il se trouve que j'ai grandi entre le Lude et Paris. Les fonctions de mon père faisaient que j'étais scolarisé à Paris. Et puis j'ai poursuivi mes études jusqu'à aller faire mon doctorat aux États-Unis entre 2015 et 2022, avec des séjours en France réguliers. Mais enfin, j'étais quand même là-bas sur ces années-là. C'était une expérience magnifique que je regrette absolument pas, qui m'a appris énormément de choses. Mais je suis revenu donc en mai 2022. J'ai trouvé une petite maison qu'avec ma femme, nous sommes en train de retaper au Lude. Et en me réimplantant, si je puis dire, je me suis dit, avec d'autres, qu'il y avait mille choses à faire au Lude et à Dissé, qui constituent aujourd'hui une commune nouvelle. En fait, l'idée est simple. Le Lude et Dissé ont un potentiel énorme, un patrimoine naturel, un patrimoine bâti, des forces humaines considérables. Et le projet de notre équipe, c'est de rajouter encore plus de vie sur la commune, en termes, on en parlera, mais en termes économiques, en termes de santé, en termes d'animation, en termes de mille choses, avec un point cardinal, et on en parlait tout à l'heure entre nous, l'atmosphère, l'ambiance. On fait tous l'expérience dans notre vie professionnelle ou associative, voire familiale. Quand on va quelque part avec la boule au ventre ou les pieds de plomb, on est beaucoup moins actif, on est beaucoup moins productif au travail, on est beaucoup moins à l'aise. Et quand je disais que ce qui me tient à cœur, c'est que l'ambiance entre nous dans l'équipe soit bonne, c'est parce que si nous sommes élus demain, on a un rôle, je crois que les municipalités ont un rôle pour donner le ton, le là, si je puis dire, de l'atmosphère dans la commune. Et c'est déterminant pour nous que nous soyons capables de mettre une atmosphère, disons, plus apaisée, plus rassembleuse, plus fédératrice sur la commune.
Alors, pour bâtir votre projet, j'imagine que vous êtes parti d'un diagnostic. Mmh. Et quel état des lieux avez-vous fait? Et après, comment vous avez articulé les principales thématiques qui sont le soubassement de votre projet?
Tout à fait. Alors ça a été exactement la démarche. Bon, le diagnostic, nous l'avons fait sur la base des données publiques. Et d'ailleurs, nous nous efforçons, dans chacune de nos interventions, d'indiquer les sources des chiffres que nous avançons. Et c'est important, je crois, de le dire à la radio, vous faites un travail d'information fiable. Et vous savez comme personne que l'information fiable, c'est au maximum une information sourcée. Donc, ça ne nous intéresse pas de balancer des chiffres à la figure des gens qui sont absolument invérifiables. Dans nos expressions, on attache une grande importance à l'indication des sources. Donc, quelles sont ces sources? C'est essentiellement les sources de l'INSEE. Et puis, parfois, pour des choses, disons, plus de notoriété publique, par exemple, le nombre de médecins au Lude, on peut se passer, évidemment, de sources INSEE. Bon. De quoi est parti le diagnostic? De quelque chose dont le Lude n'est pas le seul à souffrir, mais qui est une baisse du nombre d'habitants, qui est très nette. Il y avait 4567 habitants quand la commune nouvelle a été fondée, donc au 1er janvier 2018. Au dernier chiffre de l'INSEE, on est passé pour la première fois sous la barre des 4000, 3983. Ça fait plus de 500 habitants en moins sur la dernière mandature, c'est-à-dire le mandat et demi de la municipalité sortante. Je ne dis évidemment pas qu'elle est responsable intégralement de cette déprise démographique, mais en tout cas, tel est le diagnostic. Il y a un deuxième chiffre qui est extrêmement marquant, c'est la baisse du nombre d'emplois salariés. Alors, ils étaient 1500 avant la fermeture de la laiterie Candia, qui a été un traumatisme pour le Lude. En 2022, ils étaient 1281 emplois salariés, et selon les derniers chiffres INSEE, ils sont 1175. Pour nous, il y a évidemment un lien entre ces deux baisses. Le sujet de l'emploi et de l'entreprise est peut-être pas à première vue pour le quotidien des Ludois le plus important. J'y reviendrai, il y a des sujets de santé, de propreté, de sécurité évidemment, qui sont dans le quotidien peut-être plus visibles. Mais le Lude et Dissé ne retrouveront une prospérité et un développement solide et durable que sur la base du développement économique. Et donc, c'est ce qui a permis de définir nos quatre priorités. La base de tout, c'est le développement économique. Et puis, pour le quotidien des gens, c'est la santé, on y reviendra sans doute, la sécurité et la propreté tout au long de l'année.
Donc, en matière économique, vous dites que la ville du Lude, et d'ici sous le Lude, puisque c'est un package, c'est une commune nouvelle maintenant, ont des atouts à faire valoir.
Absolument. Ont des atouts très forts, à commencer par le foncier. Dans quelle dynamique l'économie française est-elle prise ? Bon, c'est quelque chose qui est connu. On a connu, et on continue malheureusement à connaître, une désindustrialisation. Pour la première fois, l'industrie manufacturière, je vais y arriver, est passée sous les 10% du PIB. Pour un ensemble de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais les territoires ruraux ne peuvent repartir que par l'industrie. Pourquoi ? Parce que l'économie des services, je ne sais pas qu'on pense aux entreprises de logiciels, aux entreprises bancaires, aux entreprises du graphisme et autres, bon, sont naturellement portées vers les métropoles, parce qu'elles ont besoin d'être connectées à la mondialisation, pour le dire vite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 50% des emplois en France sont dans des aires de plus de 500 000 habitants. Si des communes comme les nôtres veulent retrouver de la prospérité, ça doit passer par l'industrie, y compris par des industries importantes. J'ai aucun scrupule et aucune pudeur à prospecter, d'ores et déjà d'ailleurs, auprès de fédérations professionnelles dont les adhérents sont des industries importantes de parfois 100, 150, voire 200, voire 300 emplois. Je pense que c'est capital. Donc la première chose, c'est le foncier. On a au Lude la chance d'avoir une zone industrielle, la zone des Tourelles, dont nous pensons qu'il est capital que le foncier soit préservé et qu'il n'aille pas, par exemple, entièrement à des projets photovoltaïques. J'ai rien en soi contre le photovoltaïque, mais j'ai quelque chose en revanche contre la monopolisation du foncier disponible pour des projets photovoltaïques. Le foncier zone des Tourelles doit également être optimisé, c'est-à-dire que de l'espace doit être aménagé entre les bâtiments existants dès que c'est possible, et puis ce foncier doit être étendu avec de nouvelles viabilisations pour attirer davantage d'entreprises. Donc ça, c'est le premier atout. Bon, le Lude, ensuite, a un deuxième atout fort qui est sa situation logistique. Hein. On est sur des axes de départementales qui sont en gros de la Bretagne à Lyon et de Bordeaux au Havre. Donc pour tous les flux logistiques qui ne souhaitent pas passer par l'autoroute, c'est très avantageux. On est à une petite vingtaine de minutes de l'autoroute, c'est également un atout. Il y a une chose à laquelle notre liste s'est engagée très clairement, notamment dans le cadre d'échanges nourris que nous avons eu avec la CPME, la Confédération des PME au niveau sartois.
J'allais y venir, vous avez signé un document.
Oui, tout à fait. C'est un document très bien fait de la CPME au niveau national, mais qui a été relayé par la CPME 72. Une charte d'engagement qui s'est trouvée recoupée, on en était surpris, mais positivement surpris dans l'équipe, qui s'est trouvée recoupée de très près les mesures que nous proposions déjà, avec toutefois des ajouts, des choses auxquelles nous n'avions pas pensé, en matière par exemple de droit des marchés publics. C'était extrêmement intéressant. Mais voilà, les deux mesures de recoupement principales sont d'abord n'augmenter aucun des taux d'imposition communaux. Les industriels et les artisans tous ceux qui exportent, les agriculteurs aussi dans une large mesure, sont aujourd'hui en concurrence mondiale. Si on les freine dans la compétition mondiale en leur rajoutant des impôts, leur travail va devenir quasi impossible. Donc, une chose qu'on peut faire au niveau communal, c'est de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. Je signale pour la bonne information des électeurs, mais le portefeuille des électeurs ludois et d'ICéens s'en souviendra déjà certainement, que les taux d'imposition ont augmenté de 4% sur le dernier mandat, ce qui n'est pas négligeable. Et on prend l'engagement très clair, et c'est pour ça que aussi on le dit partout, et y compris évidemment à votre antenne, de n'augmenter aucun des taux d'imposition communaux pour ne pas nuire à la compétitivité des entreprises. Quand il y a une période d'inflation, les bases d'imposition sont déjà revalorisées, donc il n'y a pas besoin d'augmenter les taux d'imposition. Et puis deuxième mesure de recoupement entre notre projet, disons, dès le départ et la charte de la CPME, la création d'une cellule de développement économique dont nous souhaitons qu'elle regroupe deux élus, dont le maire. Si nous sommes élus, il n'y aura pas d'adjoint au développement économique. C'est une problématique si centrale qu'elle doit être confiée au maire. Deux élus, dont le maire, deux agents, et puis deux ex-chefs d'entreprise du territoire, ex pour, d'une part, des raisons de disponibilité, et puis des raisons, disons, d'équité. quel sera le but de cette cellule, d'être le point de contact opérationnel quotidien pour les entreprises du territoire et un rôle qui occupera 2/3 de son temps, un rôle de prospection que nous avons déjà engagé auprès de fédérations professionnelles, auprès de syndicats patronaux, auprès d'industriels eux-mêmes. Je l'ai dit au départ, je déteste raconter des cracks et je déteste en particulier vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, ce sont des contacts et je ne vais pas...
Et peut-être que vous pourriez nous préciser les secteurs
oui, tout à fait.
Professionnels que vous avez ciblés et dont vous dites que ça pourrait éclore au LUD.
Tout à fait. Alors, je vous remercie de l'usage du conditionnel parce que par honnêteté, il s'impose. Des secteurs comme le luxe, des secteurs comme l'usinage en particulier. L'usinage... C'est donc la confection de pièces industrielles qui connaît un surcroît de demande, notamment vu les besoins d'armement. Alors on peut regretter qu'on soit dans un contexte mondial qui appelle au réarmement, mais c'est une réalité, il faut l'envisager. Le luxe, parce que nous avons de très grandes forces dans la Sarthe dans ce domaine. Je cite toujours en exemple cette entreprise remarquable qui s'appelle Tholomyes. Je précise que je n'ai pas d'action Tholomyes, je ne sais pas si j'enfreins les règles de publicité.
Il n'y a pas de conflit d'intérêt non plus.
Non. Mais Tholomyes, c'est la marque Le Tanneur, donc c'est des sacs, de la maroquinerie, disons, de luxe, enfin à forte valeur ajoutée. Ça fait quelques années que, quasiment chaque année ou tous les deux ans, il y a un nouvel atelier entre 100 voire jusqu'à 300 personnes qui ouvrent dans différentes communes de la Sarthe. Ça a été Conneret, ça a été Joué-l'Abbé, là maintenant c'est Château-du-Loir. Ça montre en tout cas, et on a d'autres exemples vers La Flèche notamment, vers Brulon, qu'il y a un tissu dans le domaine du luxe, de la couture, de la maroquinerie. Et à chaque fois je me dis, pourquoi pas nous au LUD à Dissé.
Donc voilà pour les principales inflexions que le tissu économique ludois pourrait avoir avec vous, René de Nicolaïs, et votre équipe qui compétit pour ces élections municipales sous la bannière « Écouter et agir pour le renouveau ». Le renouveau, j'imagine que pour vous également, ça prend l'accent du quotidien, et c'est vous-même qui l'évoquez, la santé est un thème central.
Ouais.
Pourquoi l'avez-vous repris également à votre compte?
On l'a repris alors parce que d'abord, tout le monde voit que c'est un sujet au LUD. On avait 4 médecins généralistes en équivalent temps plein en 2018. Il y en a actuellement un peu moins de 2. Là aussi, c'est une baisse qui est nationale, enfin qui touche beaucoup de zones rurales. C'est le phénomène des déserts médicaux qui est lié en grande partie à la politique du numerus clausus qui a été en vigueur entre le début des années 70 et 2020-2021. Le numerus clausus a été aboli, le nombre d'étudiants en médecine est en augmentation, mais comme ça prend 10 ans de former un étudiant en médecine, entre la fin du numerus clausus en 2020-2021 et la sortie des premières promotions, 2030-2031, voire plus tard, y a urgence. Alors qu'est-ce qu'on compte faire ? On compte d'abord s'appuyer sur les compétences de notre équipe, et je tiens à remercier en particulier les professionnels de santé qui ont rejoint notre projet et notre équipe. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir dans notre équipe un médecin, une infirmière libérale, un pharmacien, une ancienne aide-soignante à l'hôpital. Et l'idée, c'est de monter dans le domaine de la santé une cellule de prospection, surtout les secteurs déficitaires au LUD, à commencer évidemment par celui des médecins généralistes. Cellule de prospection qui regroupera 2 élus, 2 agents et 2 professionnels de santé volontaires de la maison de santé du LUD et de l'UG, qui a été portée depuis le départ par les professionnels de notre équipe. C'est donc une grande chance de les avoir. Quelle est la logique derrière tout ça? Rien de tel qu'un professionnel de santé pour attirer un autre professionnel de santé. Et dans les rendez-vous qu'on a d'ores et déjà avec certains professionnels de santé qui s'intéressent au territoire du LUD, là encore, je refuse de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais nous, on a des contacts dont on verra ce qu'ils donneront, mais c'est en les multipliant c'est en semant qu'on finira par récolter. Je vois bien que ces candidats ou ces prospects, tout de suite, match, comme on dit, avec les professionnels de notre équipe, parce qu'ils parlent le même langage, ils ont suivi les mêmes études, voilà, ils ont une affinité naturelle, dont je suis persuadé qu'elle jouera un très grand rôle pour attirer des professionnels. Donc, après, il y a d'autres mesures qu'on propose dans le cadre de notre programme santé. Une action conjointe, franche et dans une coopération dénuée d'antagonisme et de rancœur avec la communauté de communes, ça c'est fondamental. À plusieurs, on est plus fort. Un soutien indéfectible à l'hôpital local du Lude et le soutien à la restauration des consultations avancées, c'est-à-dire à des interventions, des journées de consultation ou demi-journées de consultation spécialistes. Et puis le déploiement de davantage d'actions de prévention. C'est un enjeu local énorme parce que beaucoup d'actions de prévention concernent des sujets locaux, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'alimentation parfois. On a la chance d'avoir via la maison de santé des budgets qui peuvent être utilisés pour ça et on compte bien les utiliser pour développer la prévention au bénéfice des habitants du Lude et de Dissé.
Donc il y a une approche locale et une approche, on va dire, intercommunale, c'est ce que vous
dites ?
Tout
à fait. Et tout du long, une approche partenariale. On n'a pas la science infuse. On est une équipe parmi d'autres et je suis un parmi d'autres. C'est qu'à plusieurs qu'on y arrivera.
Nous sommes toujours sur Radio Prévert avec René de Nicolaï pour la liste Écouter, Agir pour le renouveau. Tant d'expressions qui se situent, vous le savez bien, dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars. Il est en train de nous préciser les enjeux tant pour les habitantes et les habitants de la commune du Lude, hein, le Lude stricto sensu et Dissé sous le Lude. Et on égrène avec lui les principaux axes du projet qu'il a bâti avec d'autres sous la bannière, je le disais tantôt, Écouter et agir pour le renouveau. Alors, le renouveau se décline, il nous l'a dit, par l'économique, par la santé, mais pas que.
Non, tout à fait. Alors, bon, une commune a ce qu'on appelle la clause générale de compétence. Donc, dans tout ce qui concerne l'intérêt local, elle a voix au chapitre. Et elle a non seulement voix au chapitre, mais elle a à se retrousser les manches. Bon. Donc, notre programme s'efforce d'avoir une vision cohérente et à 360 degrés. Mais comme il y a énormément de choses à faire, c'est important d'avoir des points cardinaux. J'en ai évoqué deux. Le développement économique qui sera le soubassement de la prospérité de la commune et puis la santé. Il y a deux autres priorités pour nous. Nous en avons identifié quatre dès le départ. C'est la sécurité et la propreté. En matière de sécurité, nous avons un certain nombre de propositions. Deux en particulier. Étendre l'éclairage public dans des zones qui en sont dépourvues ou insuffisamment pourvues. Avec un déploiement fort des LED, des diodes électroluminescentes qui permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie. Et j'espère qu'on viendra au sujet financier parce que la commune doit réaliser d'importantes économies en général. Et puis également, la modification de notre logiciel de vidéoprotection. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui des innovations dont nous pouvons tirer parti, des innovations absolument encadrées par la loi. Hein. J'en citerai en particulier deux. Il y a la connexion 4G ou 5G qui a un avantage, c'est que, je vais prendre un exemple tout simple, si vous avez un point de deal, on sait que nos territoires malheureusement sont aujourd'hui touchés par le trafic de drogue, je ne dis pas que c'est endémique, je dis que ça existe. Si vous avez un point de deal et que vous avez une caméra au point de deal et qu'elle est connectée à Internet par la fibre optique, je ne suis pas dealer mais je me mets à la place du dealer, je bouge mon point de deal de 50-100 mètres pour être hors du rayon de la caméra. Dans ce cas-là, il n'est pas possible de déplacer la caméra sauf à tirer la fibre optique. C'est coûteux en temps et en argent. Si vous avez une connexion 4G ou 5G, c'est comme un téléphone portable, c'est mobile. Donc ça, c'est une innovation importante. La deuxième innovation, c'est le stockage léger dans le cloud. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si la gendarmerie, par exemple, veut utiliser les données des caméras de vidéoprotection du LUD ? Eh bien, un gendarme doit se rendre au local du policier municipal, de faire une demande officielle d'utilisation des données. Il doit y avoir un téléchargement, puis un rechargement, si je puis dire, pour que les données de la vidéoprotection du LUD soient utilisables par la gendarmerie et par ses équipements sophistiqués. Or, aujourd'hui, il y a des innovations, comme donc le stockage léger dans le cloud, qui permettent à un policier municipal de transférer en un clic ses données à la gendarmerie. Et donc, vous gagnez un temps qui est crucial, par exemple, quand il y a des cambriolages. Si vous faut une demi-journée pour activer la vidéoprotection et la recherche d'une plaque d'immatriculation, autant vous dire que le cambrioleur, il est déjà à 500 km du LUD. Donc ça fait partie des mesures que l'on propose. Et puis en matière de propreté, j'y viens, c'est la quatrième des priorités, la priorité que je n'ai pas encore évoquée. Bon. Le but est assez simple, que le LUD et DICÉ soient toute l'année aussi propres qu'ils le sont au moment des élections. Et je le dis, au fond, en me réjouissant, parce que l'état de propreté actuel de la commune, que je trouve très satisfaisant et qui exige de féliciter les services techniques,
vous montre... mettez au crédit de l'actuelle municipalité.
Depuis un mois, oui. Et ça montre d'une part que c'est possible toute l'année, et les Ludois et les Dicéens savent que la période des élections a un petit rôle là-dedans. Et puis ça me réjouit aussi parce que ça montre que nous, notre équipe, nous sommes déjà à notre mesure dans l'action, puisque nous avons manifestement joué un rôle dans l'accélération des interventions de propreté. Bon, je dis tout ça, vous l'aurez compris, avec une pointe
de malice.
De malice, exactement. Mais sauf lorsque je remercie l'action des services techniques. Mais l'objectif est clair, il est là. Après, il y a mille sujets qui sont des sujets archi quotidiens, mais dont il faut bien parler. Ce qu'on appelle pudiquement les déjections canines, qui sont en fait des crottes de chiens. Les rythmes d'intervention des services techniques, non, plus sérieusement, l'équipement des services techniques. Les priorités en termes de zones d'intervention. Je pense qu'une ville qui ne respecte pas ses morts et ses cimetières ne peut pas respecter les vivants, et donc ça, j'y accorde une très grande importance. En termes de... C'est un sujet qui est lié à la propreté, le sujet de l'urbanisme, et évidemment la réduction des dépenses énergétiques des bâtiments les plus énergivores, parce qu'on a des économies très importantes à réaliser.
Donc le cadre de vie...
Exactement.
Contribue également à l'attractivité, puisqu'on l'a bien compris, c'est ce que vous visiez en creux avec le déroulé que vous venez de faire.
Tout à fait, vous mettez les mots de la bouche. Comme on dit, pour faire un feu, il faut rapprocher plusieurs braises. Et donc, il ne suffit pas d'agir un coup ici, un coup là, il faut agir sur tout en même temps. Si vous mettez une braise au centre de l'âtre et puis vous l'enlevez et que vous en mettez une deuxième au centre, ça ne fera rien. Il faut agir en même temps. Et donc, nous, notre motivation, elle est simple. Et je l'ai énoncé en introduction, le LUD et les DICÉ ont un potentiel considérable en termes de rayonnement extérieur, mais aussi de qualité de vie. Et notre ambition, c'est de transformer ce potentiel en réalité en agissant sur tout les leviers possibles pour redonner de l'attractivité à la commune.
Alors, on va également aborder, René Denicolaï, les enjeux du quotidien pour les habitants d'une commune en milieu rural ou en milieu périurbain. Ça dépend de quel côté on se situe. Il y a des enjeux de mobilité, puisque vous êtes sur deux sites, si j'ose dire. Il y a des enjeux également d'accès aux services publics, puisqu'il y a dans nos territoires des habitants qui s'éloignent encore un peu plus de cet accès aux services publics. Une fois qu'on avance en âge, on est moins mobile, etc. Et il y a des populations qui sont fragilisées. Et avec vous, on évoquait hors antenne cette situation géopolitique qui commence par inquiéter plus d'un. Et vous, si les Ludoises et les Ludois vous font confiance, comment comptez-vous agir pour avoir un regard à 360 degrés sur tous ces enjeux que vous citiez, mais également prendre soin?
Tout à fait. Bon, déjà, prendre soin, ça commence par une chose qui ne coûte pas cher, mais qui peut faire beaucoup. Et je n'ai aucune intention de m'envoyer des fleurs ni à moi, ni aux membres de notre équipe. Ce sera aux électeurs de juger. Mais ça passe par des choses vraiment de l'archi-quotidien, un sourire, des poignées de main et dire bonjour. Et c'est pas des choses qui nous demandent des efforts, j'ose espérer que c'est comme ça qu'on est, enfin en tout cas c'est ce que je m'efforce d'être et c'est comme ça que je vois nos colistiers être. Quand je dis que ça coûte pas cher, c'est que ça semble des petits riens, mais ça change une atmosphère. Et j'ai dit à quel point cette question de l'atmosphère, de l'ambiance sur la commune était fondamentale à nos yeux. Alors maintenant, du plus concret. Commencer par les services publics. On a un sujet au LUD avec la Poste. Il y a un projet de fermeture du centre de tri. Or, statistiquement, on sait que lorsque le centre de tri ferme, il y a des risques plus gros que l'agence elle-même finisse par fermer. Et puis la fermeture du centre de tri elle-même est un problème, parce que là aussi, statistiquement, et je me fonde ici sur des échanges que j'ai eus avec... avec un syndicat sartois de postiers que je remercie de sa prise de contact et de nos échanges. Statistiquement, quand un centre de tri ferme, bah, ça fait que des gens qui, des postiers qui travaillent sur la commune parce qu'il y a ce centre de tri, ne vont plus y travailler et que la distribution sera moins assurée par des titulaires qui sont aussi des interlocuteurs du quotidien, de chaque jour pour les Ludois et les lycéens, mais par des contractuels. J'ai rien contre les contractuels, mais la qualité de service, de fait, bénéficie, je crois, de la présence de titulaires qui, elle-même, est favorisée par le maintien du centre de tri. J'espère avoir été suffisamment clair. Donc j'ai dit que nous ferions tout pour maintenir ce centre de tri. C'est pas du tout un sujet qu'on prend à la légère. Et je suis pas postier, je suis pas syndiqué dans le syndicat qui m'a contacté.
Vous pouvez les citer, non ?
Oui, non, tout à fait. Il s'agit du syndicat FO des postiers de la Sarthe. Mais en fait, je l'ai dit, je pense que c'est lié à sans doute une histoire familiale. Le service public, j'adore ça. Et il se trouve que je suis prof de formation.
J'allais y venir.
Et puis
philosophie.
Tout à fait. Mais bon, c'est encore une fois, j'ai pas la prétention de parler comme un professionnel de la Poste. Ce que je sais, c'est que c'est un lien du quotidien.
Ça crée du lien social.
Ça crée du lien énorme. Il y a des tas de gens pour qui c'est le seul lien. Et donc c'est important. C'est pas un truc dont on se fout. Excusez-moi d'employer un langage fleuri. La baisse du service public en France est un gros sujet. Alors, je vais dire aussi qu'il y a une baisse du service public parce que l'économie tourne plus, que les rentrées fiscales ne tournent plus et que c'est un problème dont je sais qu'il est national et je suis le premier à penser qu'au niveau national comme au niveau local, la base de la base de la base, c'est le développement économique qui suppose notamment de ne pas augmenter les impôts. Donc ça, c'est de la vision générale. Mais en fait, j'en ai assez qu'on s'aborde tous les services publics. J'en ai assez pour moi parce que je suis un usager aussi. Et puis j'en ai surtout dans le cadre de notre projet marre pour les gens. Bon, donc ça c'est sur le sujet des services publics. Il y en a aussi d'autres qu'on pourrait évoquer. Sur le sujet de la mobilité, qui est évidemment centrale. Bon, et c'est lié, hein, parce que il y a de moins en moins de trains au Wigné, par exemple. Et je sais que l'équilibre économique de ces lignes est compliqué. Mais enfin, ça fait partie des services publics qui, pour atténuer la fracture géographique et retrouver une politique d'aménagement du territoire, sont fondamentaux. Donc qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus ? Bon, ça fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit, mais qui devront attendre, je le dis clairement, l'élection pour qu'on les mette en place de façon concrète. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux projets. Il y a un projet de transport à la demande, dont il faut qu'on voit s'il sera uniquement communal, ou s'il peut être fait avec des communes des alentours. Alors c'est un exemple très simple, hein. C'est pas un investissement considérable, mais si je suis aussi prudent, c'est parce que, j'espère qu'on y viendra, les finances de la commune ne nous permettent pas de promettre monts et merveilles.
Parce que la mobilité, qui plus est, dans le contexte géopolitique dont on parlait, vous et moi, hors antenne, avec des prix
voilà.
À la pompe ouais. Qui commencent déjà à s'envoler, ça devient une préoccupation majeure pour ceux qui ont déjà de quoi être mobiles et pour les autres.
Je suis d'accord, mais je pense en fait surtout aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas de permis, aux personnes âgées. Et c'est notamment pour eux qu'on songe à ce service de transport à la demande dont on peut très bien imaginer, par exemple, qu'il y ait des plages horaires réservées dans la semaine pour... accéder à des rendez-vous médicaux, pour accéder à une zone commerciale, que ce soit en centre-ville ou Intermarché, la zone d'Intermarché au LUD. Pour ce genre de créneaux, d'une part, il y a aussi des services qui existent, comme à la Flèche, des services associatifs, qui sont des espèces de blabla car, qui sont payants, mais associative, donc avec des prix très modiques, où vous avez des gens qui sont heureux de proposer leurs services pour conduire, là aussi, soit pour des courses, soit pour des rendez-vous médicaux et tout. Et c'est des choses qu'on souhaite mettre en place.
Vous allez vous approcher de ces associations
qui pour trouver le même modèle. Ça, je crois savoir que ça marche, enfin je sais que ça marche bien à la flèche, et je pense que c'est inspirant. Maintenant, pour ce qui concerne le transport à la demande, je vais être très clair. Alors, je ne vais pas me lancer dans un cours de finance locale, j'aurais pas la prétention de le donner, mais le but du jeu des finances locales, c'est d'accumuler de l'excédent sur la section de fonctionnement pour pouvoir investir. C'est pareil dans les finances de chaque foyer. Si tout votre salaire passe en chauffage, nourriture et loyer, vous ne pouvez pas vous acheter de voiture. Et dans une commune, c'est exactement pareil. Quelle est la situation au Lude ? En 2018, il y avait un excédent de fonctionnement accumulé au long des années, qui se portait à 3,1 millions. Alors j'invite tous ceux qui seraient sceptiques sur ces chiffres à aller voir les délibérations de conseil municipal des dates correspondantes, et vous trouverez tout. Comme je l'ai dit, on insiste sur le fait de donner les sources de tout. Bon, 3,1 millions en 2018. Pour 2026, on est à 750 000 euros. Donc il y a 1,350 000 euros qui sont partis. Les dépenses de personnel par habitant, et quand je dis ça, je ne blâme pas les agents en soi, en aucun cas. Je pense que c'est une responsabilité politique. Les dépenses de personnel par habitant, inflation déduite, parce que la municipalité n'est évidemment pas responsable de l'inflation, ont augmenté de 30% entre le 1er janvier 2018 et le budget qui vient d'être voté pour 2026. Et puis la dette par habitant a augmenté de 20%. Le montant des emprunts n'a pas tellement augmenté. Il a augmenté de 150 000 euros à peu près. Mais évidemment, quand vous perdez plus de 500 habitants, la dette par habitant augmente. Donc, on n'est pas du tout les rois du pétrole, sans mauvais jeu de mots dans le contexte actuel. Mmh. Donc, il va falloir être extrêmement prudent et extrêmement raisonnable dans nos investissements. C'est pour ça que je le dis. En revanche, on veut préserver le pouvoir d'achat des ménages. Je vais vous dire les choses, je ne pense pas que ce soit à une municipalité de fournir des bons de carburant. Parce que des bons de carburant, mais pourquoi pas des bons de nourriture ou d'autres choses. Enfin, y a mille priorités. En revanche, c'est son rôle de ne pas augmenter les impôts.
Donc c'est pour ça que vous dites que vous voulez préserver le pouvoir d'achat des ménages en
Absolument. Faisant. Mais des ménages, aujourd'hui, les communes n'ont plus vraiment qu'un seul levier fiscal qui est la taxe foncière. Bon. Mais la taxe foncière, ce sont les ménages, les entreprises, les commerçants qui les payent. Et donc c'est au bénéfice de tous les habitants, les commerçants, enfin les habitants propriétaires, les commerçants et puis les entreprises, évidemment, qu'on veut dire stop à ces augmentations d'impôts. Ça nous paraît capital. Je dis juste un mot d'un dernier point. C'est pas parce qu'il y a moins de jeunes et d'enfants d'année en année au LUD. Hein, il y avait 32 naissances en 2018, on est passé à 25 au dernier recensement. C'est pas parce qu'il y en a moins que ça doit être plus difficile pour eux. On était avec notre équipe ce week-end à faire du porte-à-porte dans les cités de logements sociaux qui sont près d'Intermarché et dont je remercie les habitants qui nous pour leur accueil. Il y a une chose qui est très souvent revenue de la bouche des enfants qu'on a croisés et puis des parents, c'est la question des aires de jeu. Il se trouve qu'il y a justement près de ce quartier, derrière le collège du Lude, au Cadvent, un endroit dont on souhaite faire, par un investissement, mais qui nous paraît raisonnable et nécessaire, une grande aire de jeu avec des jeux pour des âges différents. C'est-à-dire pas seulement 0-4 ans, mais à aller plus loin également, parce que pour les enfants eux-mêmes auxquels on pense en priorité, pour les parents à qui ça offre quand même un petit répit, ça nous paraît fondamental. Donc ça, c'est quand même le genre d'investissement que même dans l'État plus que contraint des finances locales, on souhaite faire parce que là, il y a un réel besoin.
Alors, René Nicolay, vous le disiez vous-même, vous êtes professeur, et j'ai ajouté de philosophie. Est-ce que l'engagement aujourd'hui, qui est la démarche par laquelle vous complétez ce qui apparaît comme une sorte d'héritage familial, puisque vous le disiez, l'engagement pour le service public, c'est votre moteur, c'est un marqueur familial. Est-ce que cet engagement-là, en tant que professeur, vous dites, il y a vocation aussi à développer cette fibre-là. On a parlé de démocratie participative, intéresser les habitantes et les habitants du territoire. Si les électrices et électeurs, lapsus, vous font confiance, est-ce que ça va être aussi le lieu d'intéresser la population à tous ces enjeux, finalement, qui sont des enjeux collectifs?
Tout à fait, oui. Pardon, je vous coupe, mais alors, juste pour apporter deux petits correctifs. De formation, oui, je suis prof, j'ai passé les concours de l'enseignement en 2017, et j'adore enseigner, je continue à enseigner selon les semaines 2 à 4 heures. Il se trouve que je suis en disponibilité depuis quelques années parce que j'ai travaillé dans l'administration, dans l'agence de prospective de l'État qui s'appelle le Haut Commissariat, qui s'appelle aujourd'hui le Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Et puis,
auprès de François Bayrou.
Voilà, et puis quand il est devenu Premier ministre, il m'a pris dans ses bagages et pendant la durée de son mandat, de sa charge plutôt, j'ai été son conseiller études et discours, c'est-à-dire que je lui préparais ses discours d'une part, dont je ne vous cache pas qu'il les suivait plus ou moins selon.
Ils sont détachés des fois.
Et voilà, ça lui est arrivé. Et puis, en revanche, une casquette études qui était un peu différente, de suivi notamment de trois sujets, le conclave sur les retraites, la réouverture des cahiers de doléances des Gilets jaunes, qui a été un moment passionnant, et qui était une initiative de Michel Barnier qui a été réalisée par Bayrou. Et puis, la préparation d'un débat qui n'a jamais vu le jour, parce que le gouvernement Bayrou a été renversé avant, préparation d'un débat sur ce que signifie être français. On n'avait aucune pudeur à parler d'identité. C'est un sujet, on a tous une identité. Et travailler sur l'identité, l'idée d'organiser ce débat, c'était de faire émerger ce qui nous rassemble sur le plan civique, mais aussi culturel, historique, linguistique, enfin bon. Je pense que c'est un exercice qui sera amené un jour. Bon, tout ça pour dire que mes activités m'ont un peu éloigné de l'enseignement, même si je continue à garder ce lien. Et puis, quand l'expérience à Matignon s'est terminée, j'ai pris 2 mois pour terminer le manuscrit de ma thèse, qui sera publié dans quelques mois maintenant.
Il va porter sur quoi, si on n'est pas trop indiscret?
Non, je vous en prie, c'est une thèse sur la liberté dans la philosophie de Platon à Averroès. Voilà. Qui est maintenant dans les mains des éditeurs. Et dans la suite, j'ai fait ce que font un certain nombre de personnes qui quittent des cabinets ministériels. J'ai créé une micro-entreprise de conseil en affaires publiques. Et donc, j'accompagne des entreprises de principalement 3 secteurs, l'industrie, la santé, donc par exemple des laboratoires pharmaceutiques, et puis la culture et l'éducation, dans leur relation avec les pouvoirs publics. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire c'est un suivi d'actualité, une cartographie des acteurs, des plans de contact évidemment, des outils de stratégie et de communication. Donc c'est mon activité depuis quelques mois. Donc je voulais juste apporter ce petit correctif. Et c'est vrai que ça me met en contact quotidien avec des chefs d'entreprise et que je pense... sincèrement, que ça me... Comment dire? Vu l'enjeu de la prospection d'activités économiques pour le lieu des lycées, franchement, ça me paraît un... En tout cas, moi, ça me met en plein dans ce bain-là. Deuxième petit correctif, je suis jamais à l'aise quand on parle d'héritage familial, et je comprends que l'image vienne à l'esprit, parce que ce ne sont pas des charges qui s'héritent. Si les électeurs... le 15 mars, puisqu'il n'y aura qu'un tour, ne veulent pas de notre équipe et de René Nicolaï, personne ne les forcera. Donc c'est pas un truc qui s'hérite comme on peut hériter d'une maison ou d'une pendule de grand-mère.
Mais le sens de l'engagement.
Ce qui est sûr, c'est que quand j'étais petit, j'avais des
rôles modèles, comme on dit. Ouais,
exactement, c'est exactement ça. Hier, on a fait avec notre liste un événement pour la journée internationale des droits des femmes à notre permanence, et je remercie d'ailleurs toutes les participantes et tous les participants, parce qu'on a tenu à ce que ce soit un moment commun. Et on a évidemment parlé beaucoup de ça, de rôle modèle. Et le tour de table qui était organisé par une de nos colistières était sympathique. Elle a demandé à chacune des présentes, là c'était seulement les femmes, de dire une de leurs fiertés et un de leurs souhaits pour les femmes en général et puis sur la commune. Mais l'idée de dire une de leurs fiertés, c'est justement à destination des jeunes femmes, notamment celles qui étaient présentes, de montrer que c'est possible. Bon, toute proportion gardée, bah oui, moi c'est sûr que voilà, mon père était à la Cour des comptes, mon grand-oncle était François était sénateur et tout. J'ai aussi évidemment un oncle qui a eu des responsabilités importantes. Bon, c'est sûr que ça me trottait dans la tête et que si statistiquement on retrouve beaucoup de médecins chez les enfants de médecins et beaucoup de profs chez les fils de profs, c'est qu'il y a une raison. Alors j'en viens après ce détour. À votre question sur la démocratie. Alors, je précise que nous sommes unis sans étiquette parce que pour nous, ce sont des intérêts locaux et que la nécessité d'attirer des entreprises, des médecins, d'avoir une ville propre et sûre tout au long de l'année, franchement, ça dépend pas des partis. En revanche, moi, j'ai jamais fait mystère de ma fibre. Je m'inscris dans une fibre démocrate chrétienne. Qu'est-ce que c'est ? C'est une tradition politique qui est fondée sur la personne, pas l'individu. Comme on dit dans le jargon, la personne, c'est l'individu avec les autres. C'est l'individu en lien avec d'autres. Et donc la solidarité est fondamentale, solidarité dans les familles, solidarité par les associations au niveau communal. Et puis, ce qu'on appelle là aussi dans le jargon, l'option préférentielle pour les pauvres. Dans tout ce que vous faites, vous vous demandez d'abord comment ça va bénéficier aux plus pauvres, parce que c'est d'abord à eux que s'adresse votre action. Et la petite expérience depuis quelques mois que je fais de la politique me montre que la politique exacerbe quelque chose qu'on voit tout le temps dans le monde social, enfin dans le monde quotidien. C'est la force qui domine, et on le voit dans des proportions beaucoup plus grandes évidemment au niveau international actuellement. Si vous êtes fort, vous avez des amis. Si vous êtes faible, vous n'en avez pas. Bon, c'est le constat. Et le sens que je donne à l'engagement, dès le départ, mais dans cette campagne dont on peut penser qu'elle est détachée de tous ces questionnements, le sens que je donne à cet engagement, c'est de mettre le pouvoir, qui est un outil de force, précisément au profit de ceux qui, s'ils sont pas soutenus par le pouvoir, vont se faire... broyer par la machine sociale, voire politique, voire économique, qui privilégie toujours l'effort. Alors, je veux pas faire de grands discours, même si ce que je viens de dire peut paraître un grand discours, mais moi, je sais que ce qui me fait me lever le matin dans cette aventure, c'est ça. Bon. Alors, dans cette fibre démocrate chrétienne, il y a l'élément de démocratique. Qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus ? On pense que on a beaucoup de force à attirer des habitants, et c'est avec eux qu'on veut faire équipe. On veut faire trois choses. À côté de chaque commission du conseil municipal, on veut créer une commission extra-municipale avec, entre, mettons, 3 et 6 Ludois lycéens compétents sur le sujet en question. Je vous donne juste un exemple. Bah, vous avez une commission municipale sur l'urbanisme. Et bah, vous faites à côté une commission extra-municipale avec des artisans du bâtiment, avec un agriculteur pour qu'il donne son point de vue sur les modifications de voirie qui peuvent impacter les agriculteurs, avec un artisan pour la même raison. Bon, avoir une commission, disons, représentative. Qu'est-ce qu'on veut faire également ? Au premier conseil municipal de chaque trimestre, avoir un temps de 45 minutes pour répondre à des questions d'intérêt général qui auront été posées par les Ludois et les lycéens 8 jours avant. D'intérêt général, parce que ça peut pas être « mon voisin m'ennuie ». C'est important pour rendre des comptes. Et puis, on veut renforcer, et puis, dans un sens, remettre à plat les liens entre le LUD et DICÉ. Dans tous les échanges qu'on a avec les lycéens, alors il y a des sujets très concrets qui concernent, par exemple, la salle polyvalente, la cantine, l'entretien, bon. Mais il y a un gros sujet de considération. Et donc, tenir une cérémonie des vœux à DICÉ également, sans augmenter le budget total des cérémonies de vœux. Tenir 2 fois par an un conseil municipal à DICÉ. Ça peut paraître pas grand-chose, mais ça montre de la considération, ça donne de la proximité, et ça nous paraît fondamental.
On va bientôt terminer cet entretien avec vous, et Il ne vous a pas échappé, René de Nicolaï, tête de liste Écoutez Agir pour le renouveau pour les élections municipales des 15 et 22 mars au LUD, que le siège de Radio Prévert se trouve dans un établissement scolaire. Et la commune est également l'échelon qui est responsable de l'école. Et avec vous, on évoquait le numérique, entre autres, hein, pour pas trop détailler ce qu'on était en train de dire, c'était, allez, face à cette numérisation accélérée de la société, et en lien avec l'éducation aux médias et à l'information qui apparaît cardinale à vos yeux, alors je vous fais un package, vous allez vous débrouiller avec ça. Quelle est votre vision pour les nouvelles générations qui sont évidemment, avec tout ce que vous nous avez dit, qui sont évidemment appelées, allez, aussi à s'intéresser aux affaires de la cité. Comment voyez-vous ça? Quelle est votre vision? Quelle est la vision de votre équipe pour ces nouvelles générations qui remplaceront celles qui sont installées maintenant?
Alors, ma vision est très simple. On a au LUD des jeunes qui sont formidables. On a rencontré certains lors d'une réunion qu'on avait faite à destination justement des jeunes de la commune. Parce qu'on fait comme ça des réunions, bon, on en a fait une avec les jeunes, une avec les commerçants, une avec les artisans, une avec les agriculteurs. Bon. Et lors de cette réunion, ont transparu deux choses. D'abord, une capacité à faire, une énergie qu'on voit dans des spectacles organisés par des associations qui sont dirigées par des jeunes, dans des animations, dans des vidéos, enfin bon, une énergie géniale. Et elle est là, et ça fait partie des choses qu'on veut justement soutenir pour lui donner son plein essor. Et puis, dans cette réunion, a aussi émergé un certain nombre de sujets très concrets. Alors, il se trouvait qu'il y avait un participant qui est, en plus, professeur des écoles. Alors, pas sur la commune, mais à proximité. Bon. Évidemment, on a un sujet de maintien des classes. Chaque année, la question se pose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une baisse des naissances. Donc, en fait, c'est mécanique. Et il y a une baisse des naissances qui se fait à un rythme plus rapide que la baisse des naissances au niveau national. La clé, c'est l'emploi. Si vous voulez des enfants, si vous voulez des familles, il faut de l'emploi. C'est pour ça qu'on dit que le socle de la santé et du développement du LUD sera l'emploi. Maintenant, il y a des sujets encore plus concrets. Alors j'ai parlé de l'aire de jeu près du collège. Il faut parler de la qualité des repas à la cantine. Il y a un contrat qui arrive à expiration. Il faudra veiller à ce que le prochain... Alors déjà, elle respecte les obligations légales en matière d'alimentation durable et bio, la fameuse loi Egalim de 2018. Là, on est quand même très très en dessous. Il faut que l'information circule mieux avec les parents sur les problèmes qui peuvent exister à l'école et au collège, mais également sur l'évolution des effectifs et l'évolution des classes, que cette évolution puisse être mieux anticipée. Notamment parce que, on l'a vu ces dernières années, la mobilisation des parents a été formidable. Enfin, j'ai pas de satisfaction à leur donner, mais je l'ai trouvé formidable, efficace dans une très large mesure. Et pour anticiper, pour préparer ces mobilisations efficaces, rien de tel qu'une circulation fluide de l'information.
Dont acte. Et on vous réinvitera, puisqu'on a bien noté que votre thèse, c'est pour bientôt, puisque sur Radio Prévert, il se trouve qu'on a aussi un temps consacré à la philosophie.
Il faudra que ce soit le soir pour les gens qui ont du mal à dormir.
Exactement, mais il y a des chroniques aussi qui sont des temps, des capsules pour mettre à notre intellect des sujets pour nourrir justement cette nécessaire conversation qu'on a avec soi-même, avec les autres, comme vous disiez, et puis avec notre environnement, c'est certain également. Alors, pour terminer, puisqu'on est déjà à 55 minutes d'émission, qu'avez-vous à dire pour les électrices et les électeurs, René de Nicolaï, qui iront se prononcer en âme et conscience, comme j'aime à dire, depuis qu'on a commencé cette série d'émissions avec les candidates et les candidats qui se présentent dans le cadre de ces élections municipales pour leur situer les enjeux?
Mais leur dire que le 15 mars, il n'y a qu'un seul tour, puisque encore une fois, il y aura deux listes, et que c'est maintenant ou jamais. La question est très simple. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on change? Est-ce qu'on continue sur la trajectoire des 8 dernières années, dont nous nous sommes efforcés lors de cette campagne à ne pas la noircir de façon malhonnête, mais dont nous pensons, objectivement, sur la base des constats que j'ai évoqués, qu'elle doit changer, que cette trajectoire doit changer, en termes d'emploi, en termes de santé, en termes de sécurité, de propreté notamment. Pour finir, vraiment, j'aimerais insister sur une chose. Le lien entre une population et la municipalité, c'est vraiment un lien du quotidien. C'est le choix d'une équipe qu'on veut avoir en face de soi tous les jours. Et j'espère qu'avec notre équipe, avec ses compétences, avec sa chaleur humaine, que nous serons chaque jour devant vous en tant qu'équipe municipale après le 15 mars. Je vous dis à bientôt.
René de Nicolaï, merci. Je rappelle aux auditrices et auditeurs que votre liste s'appelle « Écouter et agir pour le renouveau ». On a été enchantés d'avoir échangé avec vous sur votre projet et on invite donc les électrices et les électeurs à accomplir leur devoir citoyen. Merci et à bientôt.
Merci
sur Radio
Prévert. Merci à vous, à bientôt.